France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me permettez-vous une brève confidence ? Pour préparer cette émission, bien entendu que je me suis plongé dans les livres de nos invités, Isabelle Kahn et Yannick Enel, qui, l'une et l'autre, chacune et chacun à leur manière, regardent ce cortège des nudités féminines emportant la peinture de Pierre Bonnard. Mais ce que j'ai fait d'abord, c'est aller chercher dans ma bibliothèque le vieux catalogue de l'exposition que le Centre Pompidou avait consacré à Pierre Bonnard en 1984. Pourquoi ? Peut-être parce que j'avais envie de retrouver mes premiers émois, j'avais alors 18 ans. Premiers émois face à cette vibration entêtante de la lumière, passant, frôlant, glissant comme une eau pure et rafraîchissante sur le corps nu de Marthe et des autres, saisis entre deux portes, dans leur salle de bain parfois. Est-ce que sa peinture va tenir ? Se demandait Pierre Bonnard à la fin de sa vie, sans craquelure. Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l'an 2000 avec des ailes de papillon. Se laisser frôler par une aile de papillon, encore, on aimerait tellement y croire. Seulement, 1984 est derrière nous, et je ne suis plus un jeune homme. Et l'innocence n'est peut-être plus de mise. Alors, si la peinture de Bonnard tient encore, à n'en point douter, comment se tenir, nous, face à ces nus féminins ? On en parle avec nos invités, Isabelle Kahn et Yannick Enel, bientôt rejointe par Hortense Bellotte, car elle a raison, Cécile de France, quand elle répond à Vincent Macaigne dans le film de Martin Provost, Bonnard, Pierre et Marthe en 2023. Vous montrez mes seins, mais ça va pas la tête.
Ça vous arrive souvent de ramasser des filles dans la rue ? Vous pourriez répondre au moins.
Vous faites quoi dans la vie ?
Je travaille chez Trousselier.
Le fabricant de fleurs artificielles.
C'est ça. Et vous me demandez pas ce que je fais chez Trousselier ?
Qu'est-ce que vous faites chez Trousselier ?
Devinez.
Les seins, s'il vous plaît.
Hein ?
Vos seins, s'il vous plaît.
Comment ça, vos seins, s'il vous plaît ?
Si vous voulez devenir modèle, va falloir montrer vos seins.
J'ai jamais dit que je voulais devenir modèle, c'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous.
Mais vous avez dit oui.
Je lui ai pas dit que j'allais vous montrer mes seins pour autant.
Isabelle Kahn, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, conservatrice générale honoraire des peintures au musée d'Orsay. Vous avez écrit sur Cézanne, sur Renoir, Manet, Gauguin, Monet. Comment regarder Monet ? Tel était le titre d'un beau livre publié chez Hazan en 2011. Mais Pierre Bonnard, auquel vous avez consacré une magnifique monographie qui est parue l'année dernière, ou il y a, en 2023, je crois, chez Citadel et Masno. Pierre Bonnard, c'est peut-être autre chose. Lui vous regarde depuis longtemps. Vous avez été commissaire de plusieurs expositions à lui consacrer. Bonnard et le Japon à l'hôtel de Caumont d'Aix-en-Provence en 2024. Et la dernière, c'est un long commerce que vous avez avec Pierre Bonnard. Vous ne vous lassez pas ?
Non, je pense qu'une fois qu'on a découvert sa peinture, en fait, on plonge dedans. C'est une peinture qui est pleine de mystères, qui ne s'explique pas toujours.
Et elle vous éclabousse aussi en même temps.
Oui, c'est ça. C'est une peinture qui vous nourrit.
Bonjour Yannick Enel.
Bonjour.
Vous êtes écrivain. Vous êtes un écrivain qui regardait la peinture depuis « À mon seul désir », paru en 2005, « La solitude Caravage » 2019, « Bleu Bacon » en 2024. Et c'est pour le catalogue de l'exposition de Grenoble « Bonnard, les couleurs de la lumière » qu'Isabelle Kahn avait organisé, que vous avez écrit un court texte, « Pierre Bonnard, le feu des solitudes charnelles », sorte de journal intime d'un regard obsessionnel, publié en volume cette année dans la collection « Phalène » chez François-Marie Desrolles, édité. Et là, je dirais que c'est plutôt la brusquerie, c'est-à-dire que ça vous a pris soudainement et à un moment donné, vous ne vouliez voir que cela.
Oui, je voulais rénover mon regard, me désaltérer aussi. Et puis, chaque jour, j'ai noté ce que je voyais. des peintures.
Vous cherchiez sur votre téléphone portable.
Sur un téléphone, dans mes cartons de cartes postales, dans les livres, et puis un petit peu Orsay aussi, évidemment. Voilà, il s'agissait de ça. La question que je me posais, c'était qui on est, qui est-on quand on regarde Bonnard.
Puis, vers la mi-avril, je vous lis Yannick Enel, c'est dans Pierre Bonnard, Le feu des solitudes charnelles. Puis, vers la mi-avril, il y eut Nu au mur jaune, 1920, qui me passionna longtemps. L'amour qu'on porte aux figures peintes est absolu, enfantin, injustifiable. Je me mis à adorer ce corps de jeune blonde dont les longues jambes étirent verticalement la surface du tableau. Elle est enserrée entre un pan de mur tapissé d'un papier peint jaune aux fleurs roses qui la masque à demi et une série de lignes lumineuses bleutées, violettes, oranges et vertes qui orchestrent les masses fluides d'un rideau et qui composent à leur manière, doucement prophétique, un Rothko. Alors voilà, on l'a sous les yeux, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous pouvez en dire d'autre de ce nu ?
Alors je pourrais en faire tout un roman, enfin un roman vécu. Moi, ce qui me plaît, c'est évidemment toute la verticalité de ce tableau, c'est les très longues jambes de cette femme, mais aussi étrangement un détail, c'est souvent ce que Barthes appelait le punctum, enfin le petit lieu secret. Il y a derrière cette femme, il y a une desserte dont les qui tient debout. On dirait que c'est sur de longues jambes également. Et ce qui me frappe, c'est que cette desserte, cette sans doute salle de bain, porte une sorte de lac, enfin, comme si c'était la palette du peintre. C'est assez trouble. Des orangés très pâles sont mélangés à des bleus grisés. Et c'est comme si tout le tableau sortait de cette petite tablette qui, à proprement parler, ne montre rien, ne sert à rien, mais qui semble comme un œil au fond.
Et qui a une surface irisée, d'où ruisselle la lumière.
Exactement, parce que là, ce qui m'a frappé durant cette petite expérience que j'ai menée pendant 3 mois, à regarder des Bonnards tous les jours, des nus de Bonnard, c'était la manière dont c'est la lumière qui fait les corps, et pas l'inverse.
Alors les nus de Bonnard, Isabelle Kahn, sont soit très verticaux, comme ici, soit horizontaux, dans les baignoires, mais vous avez choisi de mettre en regard le nu qui lance l'exploration obsessionnelle de Yannick Enel par un autre qui lui est postérieur, mais d'une certaine manière étrangement symétrique. Est-ce que vous pouvez le décrire ?
Oui, c'est un nu qui est mis en scène d'une manière assez proche. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans les nus de Bonnard, c'est cette confrontation à l'espace. Et ici, on voit bien que le nu passe au second plan, puisque ce nu est en partie tronqué. Donc là, on est devant un tableau où il y a une succession d'écrans.
Donc ça, ce tableau, c'est le nu.
C'est le nu, c'est aussi le nu au mur jaune.
Au mur jaune, mais de 1935.
Qui est conservé, voilà, à la National Gallery de Washington, 1935. Donc à peu près contemporain, hein, aussi du nu dont a parlé Yannick Enel. Et on voit cet espace qui est composé d'écrans et qui occupe l'essentiel du tableau. Et tous les plans sont rabattus verticalement. Donc on a l'impression à la fois d'un espace extrêmement étroit. Et abstrait, c'est pour ça peut-être qu'il y a la confrontation aussi avec Rothko, avec cette idée aussi des couleurs qui vont se répondre et qui vont créer ce regard, parce qu'au fond finalement on est là aussi pour regarder ce nu.
Alors voilà, une des questions c'est l'abstraction et il y a de part et d'autre ces deux pans de mur jaune qui d'une certaine manière captent et le regard et l'attention et qui aussi escamote la figure. À chaque fois, on ne la voit qu'à moitié, Isabelle Kahn.
Oui, complètement. C'est une peinture du dévoilement, mais c'est aussi une peinture du trompe-l'œil, dans le sens on ne voit pas ce qu'on croit regarder, puisqu'ici, dans le tableau qui est conservé à la National Gallery de Washington, on ne sait pas si on regarde un reflet dans un miroir, parce qu'au fond, il y a beaucoup de choses très étranges dans la peinture de Bonnard, ou si on regarde directement. Si on est voyeur directement à travers tous ces écrans, qui sont des écrans de papier peint, très colorés. Voilà, donc il y a cette espèce de brouillage de l'espace, moi je trouve passionnant parce que on ne sait pas comment se situer et en même temps tout est en place et tout est équilibré.
Oui, et vous parlez aussi beaucoup de tous ces objets autour des nues, on ne sait pas ce qu'on regarde, mais vous si, Yannick Hanel, dans votre livre, vous dites très clairement, très crûment, très sincèrement, moi ce que je cherche à voir, c'est la nudité et comment je vais me débrouiller avec le désir, tout simplement.
Bien sûr, parce que c'est la question qui anime ma vie. Enfin, j'imagine même que je ne suis pas seul dans ce cas. Et je cherche à débrouiller le désir en moi, à le comprendre, à le saisir. Et ce qui m'a frappé plus que quand je regardais des peintures violentes, enfin pendant des années comme celle du Caravage ou de Bacon, ce qui m'a frappé, ce que j'aime particulièrement chez Bonnard, c'est sa pudeur, c'est qu'il ne donne pas lieu à la prise, justement. C'est son regard sur soit sa femme Marthe, soit sur d'autres modèles. En l'occurrence, c'est peut-être René Monchetti. Je ne sais pas très bien.
On en parlera. Mais on essaiera de les.
Voilà, c'est ce visage de miel éteint. Qui effectivement commence à se dissimuler derrière le mur jaune, relève pour moi d'une éthique du regard. Je parle de l'éthique du peintre qui ne peint pas un nu pour satisfaire une pulsion scopique, sans doute, mais pour... Vous parliez de l'espace, Isabelle Kahn, et il s'agit pour moi de quelque chose qui s'en sert ou qui s'insère, devenir une ligne de lumière, enfin, capter la lumière sur un corps. Je crois que c'est plus ça que Bonnard cherche. Et c'est sans doute ça que j'ai trouvé, entre guillemets.
En 2005, Alain Cavallier a consacré un très beau documentaire à un autre nu, un nu au bain, il y en a beaucoup, hein, à la baignoire même. On en écoute un extrait et ça va, je crois, relancer notre conversation.
Voilà. Peut-être la chose qui m'émeut le plus, c'est ce rectangle bleu et la ligne droite de la jambe de Marthe. La discrétion et la présence du sexe. Le nombril révélé par le décrassage et puis l'air buté un peu de Marthe. Elle disait « Oh, il me casse !» Et puis il est toujours après moi à me dessiner. Il reste dans la salle de bain, il me regarde tout le temps. Je suis sous son regard depuis un siècle. Et lui, à mon avis, était un vrai amateur de la chose.
C'est ce que vous pensez aussi, Isabelle Kahn ?
J'ai été prise par ce texte absolument magnifique. En effet, on plonge dans la baignoire avec Marthe, la pudeur, la discrétion, et en même temps la fusion aussi de tous ces éléments nous apprennent beaucoup sur la relation du couple aussi.
Vous y voyez de la pudeur et de la discrétion ?
En termes de biographique, oui.
Oui.
Après, en termes de peinture, non, pas du tout. C'est une explosion de couleurs, c'est un dévoilement complet. Mais justement, Bonnard a probablement eu besoin aussi de mettre en retrait la réalité de ses modèles, que ce soit un seul modèle ou plusieurs modèles, et de faire passer son métier de peintre avant tout.
Yannick Hanel le disait, on ne voit pas son visage. Les visages sont toujours masqués ou absent, le regard vide. Comment vous interprétez ça ?
Oh ben je pense qu'il y a une... comment dire ça ? Il y a un hubris, hein. C'est certain, Cavallier a raison, un grand amateur de la chose, comme il dit. C'est un obsédé, en fait, il faut dire le mot. Enfin, Bonnard est un obsédé. Et manifestement, ce n'est pas le visage qui l'intéresse, effectivement. Ce qui l'intéresse sont les courbes, les courbures, la manière dont les lumières créent l'incarnat. Mais je dirais que c'est un obsédé doux, par rapport à Picasso. Enfin,
vous le dites, c'est un faune tranquille. Alors.
C'est un faune tranquille, oui. Voilà. Mais c'est un faune, effectivement.
C'est pas un prédateur, pour vous.
Mais je crois pas parce que, bon, je dis ça, je suis un regardeur amateur, mais il me semble que chez lui, il y a quelque chose qui relève plus de la caresse que de la pénétration. Picasso, c'est quelqu'un qui va ravir au sens de la, et qui va violer, au fond. Il viole le réel. Il veut le transformer, il veut le plier à son désir. Et je crois que Bonnard, et c'est pour ça que Picasso a essayé de le réduire à une forme d'insignifiance, de peintre du dimanche, évidemment qu'il savait que Bonnard était très grand, enfin, il y avait une rivalité. Mais voilà, je crois que chez Bonnard, il y a pas le rapport de force. Ce regard veut atteindre quelque chose qui est peut-être le rapport lui-même.
Alors effectivement, de Bonnard, Picasso disait que c'était un pot pourri d'indécision. Isabelle Kahn, il a été très méchant avec cette peinture-lure. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi que Bonnard, à ce moment-là, dessine ou peint pour des affiches, pour des arts décoratifs, qu'il n'est pas dans une logique d'avant-garde, qui se méfie un petit peu des écoles. Donc, comment vous interprétez aussi, je dirais, le geste par rapport à ses contemporains de Pierre Bonnard? Disons aussi que nous parlons des nus de Pierre Bonnard, mais ce n'est qu'une partie de son œuvre qui est immense et qui a beaucoup de motifs.
Oui, un sujet essentiel néanmoins. Mais Bonnard s'est toujours tenu à l'écart des avant-gardes. Il s'est beaucoup méfié des coups d'éclat. Lui, il savait qu'il avait besoin de la durée et son indécision, c'est juste cette manière aussi très très modeste de construire sa toile. On sait qu'il travaillait très lentement, qu'il ajoutait des touches parce que l'essentiel c'était de faire passer la lumière, surtout ne pas boucher la composition, laisser les êtres et les objets vivants, parce que chez Bonnard les objets vivent aussi, ils ont bénéficié de la même lumière, la même vibration. Donc il y a une forme de fluidité. On parlait de la fluidité du regard aussi, dans sa façon de considérer la femme, et la fluidité par rapport à tous ces sujets, et surtout pas le désir comme Picasso de frapper des grands coups, c'était quelqu'un qui aimait bien rester à l'écart.
On raconte d'ailleurs que lorsqu'il retrouvait une de ses toiles chez un collectionneur, il lui arrivait de la poursuivre. C'est d'ailleurs en fait d'y rajouter quelques touches qui permettaient de poursuivre le ruissellement, de la mouiller encore d'une certaine manière. Vous disiez fluidité, Isabelle Kahn, c'est exactement cela au fond qu'il cherche, ces eaux dormantes, comme le dit Bachelard, de l'imagination.
Oui, il y avait le désir de toujours parfaire, au fond, sa création. Il n'hésitait pas même à refaire complètement une composition, à masquer même le sujet principal du tableau. Ça lui est déjà arrivé chez un collectionneur, parce qu'il n'était pas satisfait.
Évidemment, vous parlez de petit pan de mur jaune, Yannick Enel, et vous êtes écrivain, donc vous savez ce qui va vous arriver. Hein. Je vais vous dire
je le sens venir.
Quelques phrases de Proust lorsqu'il voit le petit pan de mur jaune, enfin pas lui, mais l'écrivain Bergotte, de la vue de Delphes. Il écrit « C'est ainsi que j'aurais dû écrire, mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse comme ce petit pan de mur jaune ».
Non, c'est merveilleux qu'il y ait cette métaphore justement de l'assèchement, parce que ce que racontait Isabelle, c'est exactement ça. Pour moi, l'obsession de Bonnard, c'est que ça ne sèche pas.
Ben c'est ce qu'il dit. Est-ce que ma peinture va tenir? Est-ce qu'elle ne va pas subir des craquelures?
Il faut rester en rapport avec l'humidité fondamentale, celle de la lumière, et donc du corps féminin. C'est un amoureux qui parle. C'est pas un conquérant. C'est un amoureux. Donc le grand souci, le beau souci de l'amoureux, comme on le sait tous, c'est de rester toujours en rapport avec l'objet de son amour. Et donc là, c'est par la peinture. Et donc Duras raconte ça dans La vie matérielle, c'est merveilleux. Il va chez les gens, il se fait inviter à manger, puis il s'absente un petit peu, et puis il va repeindre le tableau qui est dans la pièce à côté.
Et cet amour de la peinture, Isabelle Kahn, il éclabousse tout autour des nus. Et c'est ce qui vous intéresse aussi. C'est-à-dire les objets, par exemple. Vous avez écrit beaucoup sur les objets qui sont autour de ces figures féminines.
Oui, et pour revenir sur l'idée aussi de fluidité, il y a l'idée aussi de liquéfaction, en quelque sorte, de tous les éléments un peu solides. Donc les objets qui sont là, qui sont présents, qui sont extrêmement vivants, sont des commentaires un petit peu en périphérie du sujet principal, mais tellement importants. Ils nous apprennent beaucoup, même dans les toilettes. Il y a toujours des tables de toilettes avec des flacons, avec des miroirs, des peignes, et qui se fondent, qui prennent la lumière comme un corps aussi. Donc ces objets sont vraiment très importants.
Neuf, dans ce buisson, quel bruit viens-je d'entendre ?
Ciel, je suis découvert.
De Diane et Actéon de Marc-Antoine Charpentier en 1684, joué par les arts florissants. Vous nous parliez, Yannick Enel, de chasse. Et ben là, on y est avec Diane et Actéon. Vous avez d'ailleurs consacré un livre, un petit livre sur votre désir d'écrire à partir de cette scène.
De cette scène fondamentale, effectivement, qui est racontée dans Ovide. Ben, il y a effectivement, on connaît tous, enfin, il y a un homme dissimulé qui cherche à voir.
C'est un chasseur, hein.
C'est un chasseur, c'est Actéon. Il vient de la famille même de Dionysos, disons, pour aller vite.
Il est hébété, il est ivre de sang, il vient de faire un carnage.
Il vient de faire un carnage. Il s'est endormi sans trop savoir où il était et il est dans le bois sacré, celui de Diane. Il sait pas si c'est un songe, ce à quoi il est en train d'assister, mais toujours est-il que Diane est en train de se baigner, nue. Et sa nudité est interdite. On n'a pas le droit de la voir et lui la voit. Il est dans une position d'élection, mais qui va lui coûter cher, puisque comme on le sait, c'est ça qui m'intéresse. En se retournant, elle va asperger Actéon de gouttelettes, qui vont le transformer en un cerf, et il va être dévoré par ses propres chiens. Ces gouttelettes m'intéressent parce que la question de la peinture, au fond, c'est celle de l'humidité, on en parlait, c'est celle de l'eau qui ruisselle sur la lumière, c'est de la nacre au fond, la peinture. Et la question qui est posée chez Bonnard obsessionnellement, ou alors j'ai rêvé, c'est peut-être moi qui me la pose un peu trop, c'est est-ce qu'on peut regarder?
Bah tout dépend comment on regarde.
Ah bah justement,
lui,
voilà.
Lui, il se fait bouffer par ses chiens parce qu'il la regarde comme une
chienne. Il l'a mal regardé.
L'a mal regardé.
Exactement. Est-ce qu'il existe un moyen de bien regarder, de regarder de manière juste? Alors la réponse de Bonnard, me semble-t-il, c'est celle de la répétition amoureuse. C'est ne jamais cesser de regarder, de moduler par la nuance, ce regard. Voilà. De manière à ne pas en mourir, peut-être. Regarder une femme nue, en l'occurrence la sienne, sans en mourir.
Ça, c'est votre obsession, Yannick.
C'est mon obsession.
Enfin, vous l'écrivez dans plusieurs de vos livres.
Je cherche, vous savez.
Ouais.
Je cherche.
Alors, il a beaucoup cherché, Pierre Bonnard, lui aussi, Isabelle Kahn. Il a beaucoup cherché. Et effectivement, la répétition, c'est important parce que c'est une série de nus. Il y en a combien? Une bonne centaine?
Oh, beaucoup plus. En effet, il a beaucoup cherché, il ne s'est jamais arrêté. Parce que le nu est un sujet parmi d'autres dans l'œuvre de Bonnard, mais c'est un sujet qui traverse toutes ces années. Et jusqu'à la fin, on voit tous les jours, il prend son petit agenda, il fait un croquis de Marthe, hein, probablement.
Il photographie aussi, c'est moins connu.
Elle photographie autour de 1900, il va photographier Marthe nue, il se photographie lui-même nu aussi dans le jardin, en vue de faire des illustrations justement de Verlaine et de poèmes. C'est sa phase illustrateur. Mais sa phase dessinateur ne s'arrête jamais.
Il faut dire d'ailleurs, vous avez écrit tout récemment sur Bonnard et le japonisme, et les tableaux que nous avons sous les yeux, dans le studio en tout cas, eh bien... Le conforte bien volontiers, hein, cette question du japonisme de Bonnard. Il a un peu voyagé, mais c'est essentiellement un peintre d'atelier, c'est un peintre de carnet, c'est quelqu'un qui reste un peu obsessionnellement chez lui aussi.
Oui, et qui s'est nourri aussi des grands modèles. Alors les grands modèles, à un moment donné, quand même, le japonisme a été la révélation d'autres formes de traitement de l'espace, de vision aussi des nus, puisque les Japonais dans les estampes ont aussi beaucoup traité de ce sujet, de la nudité, du bain, de la toilette. Et Bonnard aussi a regardé ses contemporains. Il était très ami avec Matisse.
Oui.
Donc on voit aussi que ces nus sont... peut-être pas une réponse à Matisse, mais en tout cas, il y a un dialogue très fort autour de la couleur et autour aussi de la vision du nu comme forme découpée dans un espace.
Vous avez également écrit sur les nus de Renoir, Isabelle Kahn.
Oui, donc là, on est à l'opposé. On est dans une sensualité où le nu, où le décor passe derrière le nu. Et là, on est dans l'hymne à la chair, aux carnations.
Voilà. Mais c'est quand même un peu aussi le cas, en tout cas au moins dans le Bonnard que vous faites renaître, que vous avez rêvé peut-être, suggérez-vous Yannick Hennel sous votre plume, parce que vous commencez votre livre en disant « Bon, ce n'est pas du tout de désir érotique, c'est assez bizarre d'ailleurs comme dénégation, c'est pas ce que je cherche », et puis à la fin, ben si quand même.
Je savais peut-être pas que je cherchais ça, enfin pas de cette manière-là. Il y a une traversée en fait de ce désir, et au fond je me suis aperçu que sous les jeunes femmes ou la jeune femme peint par Bonnard, il y avait quelqu'un d'autre. Enfin, il y avait aussi un esprit, peut-être un démon, une démone, la nymphe. Vous savez, nymphe, en grec ça veut dire source, et cette manière de la peindre sans cesse en train de se baigner. De l'emprisonner aussi dans sa baignoire terminale, si je puis dire, on dirait qu'elle va se noyer ou qu'elle est noyée, m'a fait penser à un nymphéa dont sortirait une femme au fond. Il appréciait énormément Monet, enfin et peut-être que le secret, l'un des secrets que j'ai rêvé là aussi de Bonnard, c'était de peindre des nymphéas, mais c'est-à-dire de peindre des femmes qui sortiraient, qui émergeraient, telles des nymphes, de cette immense baignoire que sont les nymphéas, où d'autres voient la guerre, un massacre, des morts. Moi, je vois une femme qui en sort. Voilà.
Ah ben, qu'en pensez-vous, Isabelle Kahn? Parce que c'est amusant, cette émission commence à faire collection. Nous avons eu une émission sur les nymphéas.
Mais je l'ai écouté,
où un écrivain, Grégoire Bouillet, parlait à une historienne de l'art, Laurence Bertrand d'Orléac, et voyait autre chose dans ces nymphéas que ce qu'on voit d'ordinaire, la mort, sans doute, et de fait... Les Marthe ou les autres sont un peu dans leur baignoire comme dans des sarcophages à la fin tout de même.
Oui, on peut également voir avec l'association de la femme et de l'eau des démones comme les ont peintes aussi Klimt. Et là, je trouve qu'il y a un rapprochement entre le traitement de l'espace très décoratif et puis ces baignoires entourées de lumière avec la réfraction sur les carrelages. Et oui, ces démones, à la fin du siècle, bon, là on est beaucoup plus tard, on est dans les années 30, mais malgré tout, cette image de la femme, soit déesse primitive pour Matisse, avant pour Gauguin, qui participe au mythe de l'âge d'or, deviennent très rapidement, au tournant du siècle aussi, des femmes fatales et des démons. Donc là, ce qui est un petit peu contradictoire, c'est qu'en effet, Marthe est assez passive dans sa baignoire et au fond, elle est noyée sous l'eau. Mais il pourrait malgré tout y avoir un petit peu dans cette vibration de ces vibrations négatives sur la femme.
Alors, je crois que Mathieu Pot-Bonneville, le directeur du département culture et création, qui souvent nous envoie des cartes postales, je crois qu'il nous parle aussi un petit peu de passivité.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, des vieillards, pourquoi en faut-il deux ? Je parle bien sûr de cet épisode de l'Ancien Testament dont le motif est devenu une inépuisable ressource iconographique. Vous savez, Suzanne se baigne, deux vieillards l'épient, puis lui font des avances, elle se refuse à eux, par dépit ils la font accuser d'adultère et elle ne doit qu'à l'intervention du prophète Daniel d'échapper à la mort. De la nudité au regard, du regard au désir, à la prédation, à la frustration et au meurtre, Suzanne au bain est une histoire que les artistes ne cesseront de peindre. Ils joueront du contraste entre le corps nu de Suzanne, limpide comme l'eau claire, et celui des deux voyeurs tout emmitouflés de drapés et de rides. Ils tireront parti du potentiel érotique de cette scène qui exhibe sous couvert de blâmer, qui allume les regards tout en condamnant la concupiscence. Par là même, Titien, Rubens ou le Tintoret tendront aux spectateurs du tableau un miroir biseauté, l'invitant à rejoindre la cohorte flétrie des admirateurs salaces d'une femme dont la beauté est offerte et inaccessible. C'est une première réponse à la question que je posais. S'il y a plus d'un vieillard dans cette histoire, s'il en faut deux, c'est parce qu'il y a de part et d'autre de la toile un peintre et un spectateur. Et cette scène vient interroger ce qu'on pourrait appeler leur pacte scopique. Je te la montre, tu la regardes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? À ce propos, au troisième chapitre de son ouvrage intitulé « Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient », Sigmund Freud propose une extraordinaire analyse de la grivoiserie. « Le mot d'esprit tendancieux, écrit-il, a généralement besoin de trois personnes. » Outre celle qui fait le mot d'esprit, il en faut une deuxième, qui est prise comme objet de l'agression à caractère hostile ou sexuel, et une troisième, en qui s'accomplit l'intention du mot d'esprit, qui est de produire du plaisir. C'est un étrange triangle que décrit Freud. L'autre homme, qui semble d'abord interrompre le tête-à-tête de l'homme désirant et de la femme désirée, l'autre homme devient l'allié, le véritable destinataire, celui en qui le plaisir va trouver son siège, alors que l'impulsion d'abord éprouvée envers la femme se convertit en hostilité. Écoutez encore. « Au lieu de la femme, écrit Freud, c'est peu à peu le spectateur qui devient l'instance à laquelle la grivoiserie est destinée. La femme est dénudée devant ce tiers dont la libido est satisfaite sans effort. » J'ai beaucoup pensé à ce passage, Patrick. Voici quelques jours, lorsque le rappeur Kanye West a enjoint sa compagne d'apparaître entièrement nue sous l'objectif des photographes, pâle comme une morte, cependant que lui-même demeurait habillé. Je me suis demandé où était le deuxième vieillard, celui à qui ce geste était adressé en offrande, dont le plaisir viendrait boucler la boucle. Connaissant les prises de position de Kanye West, la réponse n'était pas bien difficile. L'autre vieillard, ces temps-ci, il est à la Maison Blanche. Je me suis demandé surtout comment dans ce jeu pervers ne pas devenir soi-même l'autre vieillard. Je me suis demandé à quelles conditions de peinture et d'écriture trouver un pacte dont le désir ne serait pas absent, mais qui laisserait aussi toutes les Suzannes du monde se baigner tranquilles. Cher Patrick, parmi les usages les plus dévoyés de la langue française figure pour moi l'expression « se rincer l'œil » alors qu'il s'agit de le salir. Voilà, c'est ça le problème. À quelle eau peut-on se rincer les yeux de l'envie de se rincer l'œil ?
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bon, c'est vrai que de Pierre Bonnard à Kanye West, on est un petit peu tombé de haut, mais justement, il faut affronter le motif et ne pas détourner le regard de la question que tout cela pose, Isabelle Kahn. Et peut-être une des manières de se laver les yeux, c'est de regarder, mais vraiment de considérer les modèles, et à commencer par Marthe, parce qu'après tout on en parle, mais qui est-elle et est-ce que Pierre Bonnard le savait lui-même, parce qu'en fait il l'a épousée en 1896, il l'a rencontrée en 1896, épousée en 1925, mais c'est pas exactement la femme qu'il croyait, c'est ça?
En tout cas, c'est un modèle merveilleux pour lui. Oui, après, évidemment, on revient à la biographie. Donc, il y a toute l'histoire de Marthe qui enjolive ses origines, qui change de nom. Bonnard ignore tout, mais au fond, l'ignorait-il vraiment?
Oui, vous n'y croyez pas vraiment. Il y a une interprétation psychologique que certains historiens de l'art font de l'escamotage de la figure en disant, finalement. Elle n'était pas ce qu'il croyait qu'elle était.
L'escamotage, là, c'est vraiment en termes de peinture. Après, en termes de personne et de personnalité, Marthe était quand même à ses côtés pendant, jusqu'à la fin, jusqu'à son décès, sa disparition. Cette histoire n'est peut-être pas très importante pour expliquer la peinture. Elle l'est pour nous parce qu'on a envie d'en savoir davantage. Et puis, Marthe a vraiment cultivé aussi ce mystère sur sa personne. Elle n'est pas la seule à l'époque à changer de nom. Son nom fait un peu cocotte, elle trouve ça formidable. Et elle a envie d'exister aussi à côté de Bonnard, c'est peut-être pas si facile que ça.
Et vous, Yannick Enel, vous êtes romancier après tout. Vous n'auriez pas envie d'en savoir davantage
sur
ces femmes, sur Marthe, sur les modèles, sur les autres, sur ses maîtresses?
Je crois que je m'en fous.
Ah ouais.
Non, mais oui, je le dis comme ça. Non, ce qui m'intéresse, c'est la pensée, c'est la pensivité. Quand on regarde ces nus-là, précisément ces nus, plus que les natures mortes, ce qui me saute aux yeux, c'est la pensivité. Enfin, Agamben appelle ça l'intelligence enchantée des couleurs. Voilà. Il dit que la couleur, c'est lié à la pensée. Et c'est précisément chez Bonnard, enfin, que je le vois, le mur jaune est en train de devenir nu. Et ce nu est en train de devenir entièrement peinture. Voilà, le tiers, le troisième, qui est pas un complice.
C'est un esthète quand même. Fondamentalement, vous phrasez l'histoire d'un regard davantage que d'un désir.
Ah il s'agit de la même chose, ouais. Regard et désir, en l'occurrence, ouais. Ouais. Alors, est-ce que un esthète? Non, je dis ce que je vois.
Isabelle Kahn, c'est un peu une belle définition de votre métier d'historienne de l'art, non?
Oui, avec ses difficultés et. Pour revenir à la peinture, je trouve que la peinture de Bonnard est quand même une transfiguration du réel auquel on ne peut pas échapper. La résumer et la ramener toujours au réel, au fond, ce n'est pas sa vraie dimension non plus.
L'observation minutieuse de mes jolis petits seins, de mes formes onduleuses et de mon charmant maintien me donne la pensée joyeuse que l'idéal féminin peut s'offrir aux odieuses mains d'un disgracieux conjoint.
Sur elle que les yeux, et je suis à bout de patience. Elle n'a que mépris pour un mari que les années ont affadi à la misérable existence. Thank you. que les yeux, et je suis à bout de patience. Elle n'a que mépris pour un mari que les années ont affadi à la misérable existence.
C'était L'héroïne au bain par Elena Noguera, 2003, et c'est Hortense Bellotte. Bonjour Hortense Bellotte.
Bonjour Patrick Boucheron.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Aujourd'hui, ma chronique débute de manière un petit peu spéciale, sous la forme d'un aveu,
vous
très
aussi.
Intime. Donc ça ne se voit pas, mais je rougis, sous la forme d'une confession même, car moi aussi je fais souvent ce rêve étrange et très pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre et même. Et vous comprenez par là aisément que je suis lesbienne et célibataire, à bonne entendeuse. Et j'en parle souvent de ce rêve à ma psychothérapeute qui m'aide à transposer ce feu solitaire, dévorant, où se mêlent manque sexuel et désespoir amoureux en des activités créatrices, comme par exemple la rédaction de cette chronique. Car oui, l'acte créateur comme sublimation libidinale, eh ben ça marche. De même que l'activité de spectateur, lecteur, regardeur est une parfaite soupape à nos frustrations et nous prémunit même souvent de passage à l'acte trop audacieux. Et on ne le répétera jamais assez, il est toujours mieux de collecter des photos dans un fichier d'ordinateur que des jeunes filles dans une cave. Mais n'oublions pas que nos imaginaires sont liés au réel, et inversement. Et j'espère bien pour ma part que ma petite annonce liminaire portera ses fruits, et que créer ou lire une œuvre, c'est aussi articuler une vision du monde, raconter une histoire, une mythologie active qui fait culture. L'historienne de l'art Camille Viéville, sur le site Aware, évoque cette mythologie masculine associée à la peinture, en citant John Berger dans Ways of Seeing en 1972. Les femmes sont peintes d'une toute autre façon que les hommes, non parce que le féminin est différent du masculin, mais parce que l'on tient pour acquis que le spectateur idéal est toujours mâle et que l'image de la femme est faite pour le flatter. L'artiste regarde la vie par le trou de la serrure de ses fantasmes, pourrions-nous reformuler, et nous associe du même coup à son voyeurisme. Nous sommes le chasseur Actéon surprenant Diane, le faune découvrant la nymphe, l'artiste épiant sa femme, mais c'est ok parce que c'est sa femme. Et semaine de la Saint-Valentin oblige, je ne ferai aucune référence à cette petite commune du Vaucluse, désormais tristement célèbre. Le tout à leur insu, évidemment, et dans un silence assourdissant. Qu'explicite par exemple le vieillard de Rubens, de la collection Borghèse actuellement à Jacques Marandré, qui met son doigt sur sa bouche, en s'emparant du voile de Suzanne. Mais ce serait quand même très réducteur de réduire la peinture à ce scénario éculé, et à ce geste virtuose qui parvient du même coup à dévoiler et silencier les corps féminins. Heureusement, rassurez-vous, il n'en est rien. Et en cela, la découverte récente de L'homme au bain de Caillebotte de 1884 dans la merveilleuse exposition du musée d'Orsay fut pour moi une révélation. D'abord du plus beau fessier masculin du premier plan de la peinture française depuis celui des Sabines de David en 1799, mais aussi d'une autre manière d'envisager les rapports genrés dans l'énonciation des nus en peinture. Et je me suis souvenu que moi aussi, sur mon ordinateur, j'avais créé un petit dossier hot. Et confidentiel, mais que je partage avec vous.
Ah, oui. Vous en faites voir quelques-uns?
Ça s'intitule « Les femmes nues peintes par des femmes ».
Extrait choisi. Alors d'abord, vous avez Marie Cassatt, Femme se baignant ou La toilette, 1890, pointe sèche et aquatinte sur papier vergé, ça ne s'invente pas, qui est conservée à New York, où on y voit une femme de dos, on voit la naissance d'un sein, mais on ne voit pas son visage, et on voit surtout que Marie Cassatt y a intégré avec virtuosité les enseignements des estampes japonaises. Et ce qui est amusant, c'est que cette femme, eh bien, elle ressemble énormément à celle de La toilette de l'enfant, de 1894, même coiffure, même robe, et qu'est-ce que ça nous raconte, cette autre femme à la toilette? Eh ben, nous y reviendrons. Je ne dis pas les réponses tout de suite. Je vous donne une autre, Louise Breslau. 1898, La toilette, collection particulière. Alors, il faut savoir que Louise Breslau, en 1876, elle est, dit-on, la première femme à entrer à l'Académie Julian vêtue, c'est-à-dire en tant que peintre et non en tant que modèle. Et dans ce tableau, elle représente Madeleine Szilárd, peintre qu'elle a rencontré à l'Académie Julian également. Elles ont à ce moment-là 35 et 40 ans. Elles se sont rencontrées en 85. Elles vivent ensemble depuis 10 ans. Ça nous raconte une toute autre histoire. Une autre, Lotte Laserstein, qui m'avait été signalée par Julie Bozac, créatrice du podcast « Vénus épilait-elle la chatte ?» et qui représente une femme accroupie qui fait sa toilette du matin. En 1930, cette femme, eh bien, c'est Trotte Rose, un corps sportif qui nous fait évidemment penser à une sculpture antique. Et cette femme, c'était à la fois sa pote, sa meuf et sa prof de tennis. Voilà qui raconte à nouveau autre chose. Toute cette éventail des regards qui se déploient, c'est une réflexion qui m'avait été suggérée par l'autrice Iris Bray il y a quelques années pour discuter autour de la question des femmes à leur toilette. J'ouvris la discussion par une relecture de La femme au bain de Rembrandt, dont j'ai développé un épisode de la série Merci de ne pas toucher sur Arte Web que vous irez voir, et Iris Bray l'a clôturée par la séquence de toilette du film de Chantal Akerman, Jeanne Dielman. Une jeune lesbienne belge de 25 ans filmant l'aristocratique Delphine Seyrig, jouant une ménagère, se nettoyant les oreilles frénétiquement avec un gant de toilette avant de s'emparer d'une arme blanche, eh bien qu'est-ce que ça raconte? Eh bien tous ces exemples nous racontent d'abord qu'il faut déplier les possibles de l'énonciation, et puis nous racontent aussi qu'entre-temps les femmes ont été désarmées, et notamment par ce 19e siècle, désarmées juridiquement, économiquement et dans le champ de la représentation. Juste pour rappel, ce n'est qu'à partir des années 1870 qu'elles sont intégrées progressivement à l'Académie Julian, l'Académie de peinture, et seulement en 1900 à l'École nationale supérieure des beaux-arts. Et même à l'Académie Julian, il faut se rappeler que les frais d'inscription étaient de 30 francs pour les hommes et 60 pour les femmes. Alors, nos imaginaires se nourrissent du réel et inversement, avec parfois des préoccupations bien matérielles, mais il est temps de réarmer les femmes au bain et de leur rendre leur voix lointaine et calme et grave, et qui serait nourrie de l'inflexion de toutes ces voix chères du passé qui se sont tues.
À bonne entendeuse. Et alors vous, Yannick Canal, qu'est-ce que vous avez entendu?
À bonne entendeuse, c'est
oui.
À bonne entendeur, mais
oui.
J'entends.
Isabelle Kahn.
Oui, c'est un très beau renversement par rapport au regard masculin et qui est en effet nécessaire aujourd'hui d'appuyer sur les tableaux de Bonnard aussi, puisque au fond le modèle ne prend-il pas le pouvoir aussi dans les tableaux de Bonnard, puisque c'est le sujet essentiel de ces nus.
La question du modèle et la question de la construction de l'histoire de l'art aussi. Parce que c'est vrai que, comme John Berger l'évoquait, il y a quelque chose où notre discipline même d'histoire de l'art et notre culture du regard, sans aller jusqu'à des notions de culture du viol, a été créée avec ce présupposé du regardeur masculin sur un objet. Et la question de la réification du corps de la femme est toujours très proche.
Oui, ça c'est ce que vous écriviez plus tôt, on l'avait dit, Isabelle Kahn, dans votre livre sur Renoir, sur les nus de Renoir, là c'est autre chose. Vous êtes d'accord avec cette idée qu'au fond, il y aurait là comme une revanche du modèle chez Bonnard?
Je crois qu'en même temps, on peut pas inverser le sens de l'histoire. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque de Bonnard, voilà, les rapports entre les hommes et les femmes étaient ainsi. Mais après, dans l'intimité et les rapports surtout entre Bonnard et sa femme, au fond, on ne les connaît pas non plus complètement. On voit qu'elle a un certain pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que c'est une vision. Et au fond, l'analyse de la peinture, qu'on soit écrivain ou historien de l'art, c'est une vision. C'est juste à un moment donné. Essayer de conjuguer les regards.
Hortense Bellotte, vous avez lu le livre de Yannick Enel, Pierre Bonnard, Le feu des solitudes charnelles?
Eh bien oui, je l'ai lu.
Et il est à vous.
Eh bien voilà, j'avais des questions à vous poser. Alors en vous lisant Yannick Enel, je me suis rendu compte quand même qu'on venait de deux peuples très différents. Oui. Et que ça n'allait pas être évident de trouver un langage commun, mais c'est super qu'on le tente. Voilà. Donc pour savoir comment vous parlez, je suis allée voir un de mes rares amis, homme cis blanc, hétéro vieux, qui n'était pas Patrick Bourgeron, parce qu'il n'est pas si vieux.
Ah ben c'est sympa.
Eh bien,
c'est sympa. Qu'est-ce que vous en savez d'ailleurs de ce que je suis vraiment?
J'ai regardé sur votre fiche Wikipédia.
Ah ben voilà.
Mais je suis allée voir mon...
Préjugé de gens, voilà.
Je suis allée voir mon père... Et j'ai piqué cette blague à l'humoriste Tani, vous irez voir, mais je la trouve quand même très drôle et très vraie. Et je lui ai dit, papa, dans ce texte, il n'y a rien qui va. Il m'a répondu, écoute, pour les gens de mon peuple, il va falloir que tu explicites ce qui ne va pas. Alors voilà, je prends quelques petits trucs qui, moi, me sautent aux yeux. Et ben notamment tout ce vocabulaire qui, pour moi, renvoie à une vision très archaïque et un petit peu éculée, qui est celui de la femme démon. Le sexe féminin comme porte du grand mystère. Toute cette mythologie-là de la femme secret, la femme spirituelle, la femme démon, c'est quelque chose qui est associé à une vision misogyne des rapports. Et par ailleurs, ou autre petit truc, votre utilisation de l'amour comme argumentaire. Alors l'amour, ça aussi c'est un argumentaire éculé de « je suis du côté des femmes, je les aime trop même ». Voilà. Non, ça, c'est plus possible. Et le fait qu'il y ait de l'amour n'a jamais empêché qu'il y ait violence, en réalité. Et je dis tout ça, par ailleurs, moi, j'aime bien Bonnard. Hein, et je trouve, effectivement, je suis d'accord avec vous, dans le fait qu'il y a quelque chose qui est plutôt OK dans sa représentation. C'est votre argumentaire que je trouve parfois pas au bon endroit et qui finirait même par nous faire penser l'inverse. Et je parle même pas du petit... passage sur la moraline obscène, là, que j'ai pris carrément pour moi, personnellement.
Alors, Yannick Enel, vous répondez.
Oui, non, je suis très surpris par la l'imputation de misogynie, en fait, concernant ce que j'essaye d'articuler entre le regard de ce peintre et puis ce qu'il en est, effectivement, mythologiquement, de la nymphe. C'est-à-dire que le daimon, enfin, au sens grec, c'est un corps qui est esprit et qui va faire le lien entre, disons, oui, le monde des esprits et le monde des mortels. Et de fait, ces daimons, enfin, c'est pas démons au sens moral, c'est pas celles qui font le mal, c'est celles qui peuplent l'onde, enfin, les sources. La nymphe voulant dire source. Pour moi, c'est le lieu où se joue, effectivement, pour Bonnard, et je sais pas si c'est bien ou mal. Enfin, je peux entendre que c'est pas bien, mais c'est le lieu où c'est le lieu de la rencontre et c'est le lieu de la peinture. Voilà, ce lieu du bain qui effectivement transporte. Je suis d'accord avec vous et je l'entends encore mieux aujourd'hui qui transporte des stéréotypes masculins. Mais j'ai beaucoup travaillé sur Bacon et je rencontrais le même genre de représentation. Pour moi, le plus beau tableau du monde, c'est les lutteurs où il y a deux hommes qui font l'amour. Et où tout ce bleu blanc glacier autour d'eux se met à faire vibrer la peinture, j'allais dire, sans qu'on se demande si c'est un homme ou une femme, ou si quelqu'un domine l'autre, ou si c'est bien ou mal. Quand je parle de moraline dans mon texte, oui, c'est juste parce que je me dis que la peinture et la lumière qu'elle transporte ne relève pas de l'offense. Enfin, elle relève d'une représentation qui, sans doute, effectivement, peut être datée. Enfin, dans les rapports qu'elle transporte avec elle. Enfin, en l'occurrence, le male gaze, effectivement, le regard masculin sur un corps de femme. C'est vrai que je me crois plus innocent que je le suis, sans doute. Et vous me le redites très justement, oui. Mais j'entends, j'accepte.
Mais c'est vrai, vous dites, parce qu'on sent que vous êtes attiré par cette question. Est-ce que ce regard est réducteur, sexiste, offensant? Absolument pas. Alors là, je trouve que vous répondez un peu vite. Voilà. la réponse. Et effectivement, vous avez amené cette question. La lumière n'est jamais une offense. Oui. Et vous évoquez le soin, l'obstination, la patience et l'amour que Bonnard a mis à cette question. Oui. Alors, en l'occurrence, l'obstination et l'obsession, c'est aussi ce qui caractérise le harcèlement. Hein. Donc, ce n'est en rien un argumentaire.
Là, on parle d'un artiste qui peint quelqu'un avec qui il vit. Et en l'occurrence, je suis pas certain que la chambre, que leur maison doive se transformer en tribunal. Enfin, harcèlement. Je comprends pas.
Non, c'est dans l'argumentaire. C'est pour ça, vraiment en termes d'argumentaire, puisque vous tentez un argumentaire pour dans un tribunal que vous invoquez vous-même pour tenter de défendre. Et cette question, oui, de obstination, patience et amour, c'est ça, c'est ce qui serait.
Ce sont des mots, même s'ils sont prononcés par des criminels, ce sont des mots qui ne relèvent pas du crime. Enfin, obstination, passion et amour.
Alors, Isabelle Kahn, je voudrais pas vous demander d'arbitrer, mais vous avez, encore une fois, vous regardez depuis longtemps Pierre Bonnard, et vous avez effectivement vécu ces changements de regard, c'est-à-dire ces sensibilités accrues. Est-ce que pour vous, cela nous empêche de regarder, ou est-ce que, au contraire, ce qui serait une façon de nous entendre, cela aiguise notre œil. Après tout, ces questions morales qui sont les nôtres aujourd'hui et qui, vous le rappeliez, n'étaient pas celles de Bonnard en son temps, ça nous permet d'ouvrir les yeux aussi, peut-être également, non ?
Oui, tout à fait. Et puis d'intégrer aussi le passage de l'histoire, des changements du regard, de notre culture d'aujourd'hui. C'est des points de vue qui s'additionnent, au fond. De toute façon, quand on regarde avec notre époque et on regarde avec notre savoir. Donc après, l'œuvre d'un écrivain, là, c'était plus, on était peut-être plus dans le rapport à l'écriture que vraiment le rapport à la peinture, même si c'est le rapport de l'écriture à la peinture. Je pense qu'il s'agit davantage d'une expression qui vient s'ajouter à la contemplation du tableau. Donc rien ne nous empêche de regarder la peinture avec nos idées. Et puis, qu'il y ait une expression plurielle, moi, j'adore. Je trouve que c'est absolument indispensable. Et que ça nous permet aussi de mieux comprendre une époque et de ne pas gommer l'histoire.
Et puis, on pourrait quand même s'entendre sur quelque chose, Hortense Bellotte. Il y a quelque chose de doux dans Bonnard. Et quelque chose de doux. Alors, je ne sais pas si il faut l'opposer, enfin, le faune doux au Minotaure de Picasso. Oui. Mais en tout cas, vous avez l'air de penser qu'il y a quelque chose de doux, non ?
Ah oui. Bonnard, il y a quelque chose qui est assez proche finalement des autres représentations. C'est simplement que ça articule un certain rapport qui doit être réouvert. Et après, je vous rejoins, Isabelle Kahn, sur la question de la liberté de l'écrivain. Et en ça, moi, je passe ma vie à défendre ça, la possibilité, en tant qu'individu, de pouvoir se projeter dans un tableau et d'y voir ce qu'on veut y voir, et d'érotiser le monde. Et en ça, on est vraiment fait pour s'entendre. Et j'aime beaucoup, d'ailleurs, l'audace avec laquelle vous dites « Bonnard est celui qui a vu dans les nymphéas de Monet une femme. » Et avec cette idée, tout d'un coup, la nymphéa comme un sexe féminin. Alors là, j'avoue que c'est d'une... Moi, j'aurais dit le quart de ça, on me serait tombé dessus. Hein. Mais donc, les meules de foin, c'est quoi ? C'est des culs. Et alors, la cathédrale de Rouen, c'est quoi ?
Oh, je sais pas. Elle m'intéresse pas tellement.
En fait, vous avez un intérêt assez sélectif. Hein,
sur... Ah ben bien sûr, attendez, c'est pour ça que je ne suis pas historien d'art, je suis modestement
c'est
écrivain.
C'est ce que vous dites dans le livre, c'est sa sincérité, en fait, sa candeur, c'est que vous dites, voilà, moi c'est ça qui m'intéresse.
Absolument. Mais comment dire, c'est un livre d'obsédé, je ne m'en cache pas. Je retiens l'adjectif et j'essaye de me l'attribuer, mais ce serait peut-être... trop, un obsédé doux, voilà.
Eh bien, c'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Yannick Hennel, Isabelle Kahn et Hortense Bellotte. Les références de vos ouvrages sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet, Anouk Minaudier et Jeanne Agrapard, à la prise de son Noé Chabanne et à la réalisation de Laurence Millet. Merci à vous.